Quand on évoque généralement la figure du paysan en rapport avec les armes, on a pratiquement toujours à l'idée deux figures, si j'ose dire, le paysan comme victime désarmée d'agressions de tous ordres, depuis les brigands jusqu'aux soldats, ou bien l'inverse, le paysan qui prend les armes et qui les prend pour se révolter. L'enjeu de mon intervention devant vous cet après-midi, c'est de réinterpréter le recours aux armes des populations rurales, qui est, selon moi, justement, trop marqué par ce concept de révolte. Et après une réinterprétation spatiale, comme on en a vu tout à l'heure, ici une réinterprétation peut-être sociale, et que j'essaierai d'articuler en fin de propos un concept des sciences sociales que vous connaissez bien et dont vous avez déjà sûrement entendu parler, celui de la domination. Alors, mon propos va s'articuler en deux temps. Le premier, qui est un petit peu de vous faire part de mon cheminement pour parvenir à ce cadre interprétatif à partir d'un objet historique bien délimité. Et puis, dans un second temps, une fois que j'aurai posé ces bases, essayer de tirer un petit peu le fil et d'avoir une vision plus ample, couvrant, ou essayant de couvrir, ou tentant de couvrir l'essentiel de la période que j'ai évoquée devant vous, entre la fin du Moyen-Âge et le XIXe siècle. Donc je vous emmène dans un premier temps à la découverte de ce que j'appelle par commodité, parce que c'est plus court, la défense rurale et que je vais vous définir ensuite. Je suis venu à ce thème complètement par hasard en étudiant la période des guerres de religion en Bretagne et plus spécialement la période de la Ligue, que certains d'entre vous connaissent bien. Je vous le rappelle, c'est la dernière phase des guerres civiles, des guerres de religion. On est entre 1589 et 1598 pour ce qui concerne la Bretagne. Et au départ, je faisais travailler sur cette période essentiellement pour réfléchir à des questions autour de la politisation à l'époque moderne, qui était un thème sur lequel on travaillait avec toute une série de collègues. Et parmi les phénomènes que j'ai pu observer pendant cette guerre civile, eh bien, c'était justement l'importance des mobilisations armées rurales en Bretagne, l'importance de ce qu'on appelle les levées des communes ou de la commune. Alors c'est un terme que je vais employer fréquemment, commune étant entendre ici au sens de paroisse rurale sous les armes, paroisse rurale mobilisée en armes. Et ces levées de communes pouvaient mobiliser des dizaines de paroisses, regrouper parfois des milliers de ruraux, des milliers de paysans. Et c'était particulièrement net pour la Bretagne, dans une période assez courte, les années du début des guerres de la Ligue, 1589-1590, celles qui correspondent à la diffusion de la crise ligueuse à l'ensemble du royaume. Ils ont participé à tout un tas d'opérations, dont je vous présenterai rapidement certaines. Mais avant ça, je voudrais faire un tout petit point historiographique. Qu'est-ce qu'on disait dans la tradition historique et historiographique de ces mobilisations? D'abord, elles étaient identifiées comme des révoltes, comme des soulèvements, que ce soit par les contemporains ou par des historiens plus récents, juste une citation extraite d'un ouvrage de Michel Nassier qui parle d'une entente entre ligueurs et paysans et nous dit ceci, « Ligueurs et paysans révoltés conclure une sorte d'alliance de fait ». Donc oui, il fait la distinction entre les deux, mais il insiste bien sur le fait que ces paysans sont des révoltés. Et quelle était l'interprétation de ces révoltes? Elle avait deux logiques. Soit les motivations étaient religieuses, soit les motivations étaient sociales, que ce soit de la part des contemporains ou de la part des historiens. Motivation religieuse, alors là, on trouve ça déjà dans le camp des royalistes. Vous savez qu'on oppose, dans cette période de la Ligue, les ligueurs d'un côté, ultra-catholiques, et puis les royaux royalistes, soutien d'Henri III, puis d'Henri IV. Les royalistes nous disaient, ces ruraux ont été trompés par les affirmations du camp ligueur, qui prétend agir pour des régions religieuses. Alors certes, ils ont été trompés par ces affirmations, mais si ça a marché, c'est qu'ils y croyaient et qu'effectivement, s'ils s'engageaient, ils se seraient engagés pour des motivations religieuses. On retrouve cette vision d'un engagement religieux ligueur dans des travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie, travaux de synthèse d'Emmanuel Leroy-Ladurie dans ce domaine-là, selon lesquels cet engagement religieux ligueur renverrait aux mentalités de la société du temps. Je cite une courte phrase de Leroy-Ladurie qui parle des bocages armoricains et normands d'ailleurs, dont les révoltés ruraux, quand ils se manifestent, sont et demeurent fanatiquement catholiques, c'est-à-dire en la circonstance ligueur, circonstance de la fin du XVIe siècle, ligueur, donc des révoltés ligueurs. Ça, c'est le premier versant. Deuxième versant d'analyse, leur action est marquée d'une dynamique de remise en cause sociale. Et on s'appuie régulièrement sur le témoignage d'un chanoine ligueur de Quimper, Jean Moreau, que Jean-Marc connaît bien parce qu'il parle de loup à certains moments. Le chanoine Moreau est un ligueur, est un clerc, est un noble, qui a écrit un texte extrêmement riche sur la période de la guerre de religion en Basse-Bretagne. Et il évoque en particulier un combat pour Carhaix, qui est une petite ville de Basse-Bretagne, que les amateurs des vieilles charrues connaissent mieux aujourd'hui pour cela que pour ce dont je vais parler. Et il évoque dans ce contexte-là, en 1590, la défaite des communes qui ont été mobilisées pour reprendre la ville, qui a été victime d'un raid d'opération, une opération militaire des royalistes. Donc les communes combattent les royaux, donc objectivement, elles sont dans le même camp que Moreau, qui est ligueur. Et pourtant, il ne regrette pas du tout leur défaite, il est même très content. L'échec des communes de son propre camp est selon lui préférable, parce qu'autrement, s'ils avaient gagné, ils auraient commencé une opération de subversion sociale. Leur défaite, nous dit Moreau, abaissa leur arrogance et leur fierté, car ils étaient tout disposés à une révolte contre la noblesse et communauté de ville. S'ils fussent retournés victorieux, ils se fussent jetés sur les maisons des nobles, sans pardonner à aucun qui eût été de conditions plus relevées qu'eux. Donc vous voyez, une motivation indirectement, ici, évoqué, de révolte et de subversion sociale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Moreau ici refuser, si j'ose dire, une solidarité partisane au bénéfice, si j'ose dire, d'une lecture de classe, hein, d'une certaine façon, de cet affrontement. Tout vaut mieux qu'une victoire de ce qu'il appelle gentiment dans son texte la paysantaille. C'est ce dont il, ainsi qu'il les appelle. Descendons le temps, début du XXe siècle, grande synthèse sur l'histoire de la Bretagne, de l'historien Barthélemy Poquet, qui étudie lui aussi ce mouvement et qui l'appelle, je le cite, un soulèvement des paysans, on est toujours dans la même thématique, et qui a cette expression, alors il commence en disant « dans ces esprits frustes », alors il parle des paysans, vous voyez, vous apprécierez au passage la tradition du mépris, alors c'est plus quand même complètement la paysantaille, c'est un petit peu plus subtil, mais ce sont des esprits frustes, forcément, puisque ce sont des paysans, « dans ces esprits frustes, la haine des supériorités sociales s'unissait inconsciemment, c'est forcément inconscient parce que c'est des esprits frustes, donc la haine des supériorités sociales s'unissait inconsciemment à l'idée de la défense religieuse. Vous retrouvez ces deux dimensions, haine des supériorités sociales, défense religieuse. C'est d'autant plus intéressant dans le cas de Barthélemy Poquet, c'est qu'il s'appuie sur des sources qui ne mentionnent jamais l'argumentaire religieux. Je pourrais en citer beaucoup d'autres, je finis avec le dernier, une des synthèses les plus récentes sur l'histoire de la Bretagne, Joël Cornette, Histoire de la Bretagne et des Bretons 2005, qui qualifie les mouvements dont je vous parle, et en particulier cette attaque concernant Carhaix, de pure et simple révolte antiseigneuriale. Ce modèle nécessite une critique, que je vais essayer de faire devant vous pour commencer, et la critique commence d'une certaine façon avec la question de la nomination des événements. Il y a une véritable lutte d'imposition pour savoir comment il faut désigner ces mouvements. C'est l'illustration d'un cas beaucoup plus général, comme vous le savez. Hein. Qualifier, c'est évidemment agir sur un phénomène en orientant son interprétation, et donc on le définit comme rébellion, comme révolte, comme chez Poquet tout de suite, comme soulèvement des paysans. Il aurait pu dire mobilisation générale des communautés villageoises. Non, il appelle ça soulèvement des paysans. Et évoquant dans une comparaison la situation bretonne et la situation bourguignonne, un des très grands historiens de la Ligue, hein, il y a déjà trois générations, puisque son livre était paru en 1937, Henri Drouot, eh bien Henri Drouot parle à l'occasion de ces interventions des paysans de guerre sociale. Il y a un véritable enjeu même de la définition des actes qui sont commis. Il y a dans ces opérations bretonnes un épisode dans lequel des troupes de paysans prennent d'assaut une maison forte où se trouve tout un groupe de nobles et les tuent. À l'issue de l'opération, et cet événement est passé dans la tradition historiographique sous le nom de massacre, c'est le massacre de Roscanou, terme qui est repris par toutes les sources, y compris par Moreau. Il y a une seule source qu'il désigne différemment, et vous ne serez sans doute pas surpris d'apprendre que c'est la seule source qui nous vient du camp des vainqueurs, des communes rurales. Elle ne parle pas de massacre de Roscanou, elle parle bien évidemment de bataille de Roscanou. Malheureusement, on a une demi-ligne. Une allusion à la bataille de Roscanou. Donc, remise en cause ou débat sur la terminologie et remise en cause aussi des deux lectures qui sont faites, la lecture religieuse et la lecture sociale. Lecture religieuse, population ligueuse, on a des contre-exemples flagrants. Je ne vais pas vous les énumérer, mais disons les deux plus célèbres, ou les deux plus évidents. Près d'Ennebon, en octobre 1589, une troupe ligueuse, soldats ligueurs, sont chargés par plus de 2000 paysans, donc les voilà luttant contre des ligueurs. Et puis un épisode un petit peu connu dans l'historiographie bretonne, qui est un combat qui se passe à Château-Giron, entre Rennes et Vitré, qui oppose des milliers de paysans. Les uns, dit le texte, on a quatre lignes là encore, dit le texte tenant pour la Ligue, et les autres tenant pour le roi. Ce sont d'ailleurs ces paysans tenant pour le roi, dont le texte nous parle, qui sont vainqueurs. Donc, identification ligueur-paysan, ça marche pas ou ça marche pas bien. Lecture sociale, lecture de subversion sociale. On constate, quand on étudie la période, une absence absolument totale de révolte rurale, soit anti-nobiliaire, soit anti-ville, qui serait directement dirigée ou contre la noblesse, ou contre les villes, ou contre les deux. On a simplement des mobilisations dans le cadre des combats qui sont liées aux événements même de la guerre civile. Et c'est dans ce cadre-là que les paysans participent à toute une série d'opérations militaires, par exemple l'opération de Carhaix dont je vous ai parlé, et un siège important à Vitré, dont je vais vous reparler aussi dans quelques instants. Carhaix tout à fait au bout de la Basse-Bretagne, là-bas, dans le Finistère actuel, et puis Vitré presque à la frontière de la civilisation, c'est-à-dire du Maine. Autre élément, si on regarde l'encadrement de ces communautés, cet encadrement de cette fameuse paysantaille, c'est un encadrement systématiquement nobiliaire, seigneurial. Partout, les capitaines de paroisse ou les chefs plus élevés du mouvement qui dirige la colline sont des dominants, essentiellement des nobles. Et si on revient sur ce fameux massacre antinoble, ou supposé massacre antinoble de Roscanou, et qu'on va voir un peu comment les choses se sont passées, quel est le point de départ de cet épisode? Un prêtre qui fait sonner le tocsin à une paroisse d'à côté, à Plébain, sa maison a été brûlée, l'agression exige une réaction, et le prêtre demande que les nobles aillent mener la commune contre les agresseurs, et de fait, toutes les communautés qui participent à l'opération, ou du moins toutes celles qu'on peut repérer, ont à leur tête un notable local, qui est un membre de la petite noblesse généralement, et on sait d'ailleurs à partir du procès ultérieur, qui me permet d'avoir ces différentes informations, les témoins nous décrivent, après le massacre, entre guillemets, ou la bataille, comme vous voulez, ces capitaines nobles qui sont vainqueurs et qui rentrent du combat avec leur butin, des chevaux, des selles, des armes, comme il se doit après une opération victorieuse. On peut même disqualifier le jugement qui est porté par Moreau à la lecture même de son texte et des événements qu'il raconte. Parce que Moreau est un témoin oculaire de ce combat de Carhaix. Il a même enterré une partie des victimes. Il a été témoin de la mobilisation. Pas témoin du combat, j'exagère. Il est témoin de la mobilisation. Il les voit passer. Et il enterrera, après le lendemain de la bataille, un certain nombre des victimes, dont le chef noble qui les commandait. Que nous dit Moreau? C'est qu'il nous raconte effectivement comment les choses se sont passées à partir des témoignages qu'il peut avoir, et il nous montre tous ces nobles qui sont placés à la tête des communes, révélant ainsi, d'une certaine façon, une contradiction au sein même de son texte. Il nous dit ils veulent tuer tous les nobles, mais parallèlement, il nous montre qu'ils sont véritablement encadrés et qu'ils sont satisfaits de l'encadrement de ces nobles et qu'il n'y a pas du tout de mise en cause, si j'ose dire, et de subversion sociale. Si on invalide d'un côté le choix, j'allais dire, politico-religieuse univoque, les paysans ne sont pas forcément des ligueurs, les paysans bretons à ce stade. Si on invalide la subversion sociale, quelles sont les revendications qu'expriment ces paysans quand ils sont sous les armes? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de revendication. Je vous laisse dans l'immédiat sur cette interrogation que je vais retrouver tout à l'heure. Je dirais, il n'y en a pas et c'est tout l'intérêt que ça représente. Avant cela, essayons, pour faire avancer les choses, de proposer un nouveau cadre explicatif fondé sur un renversement évident par rapport à ce que je viens de dire. Ces paysans, ces engagements armés des paysans, jouent, si j'ose dire, dans une autre catégorie. Ils correspondent à la contribution des communautés rurales à ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle à l'époque, la défense du pays, la défense du bien commun, la défense de la Respublica. Ils font face, d'ailleurs, ce faisant, à toute une série de types de menaces sur la sécurité des populations. Ils font face à toute une série de perturbateurs externes, alors avec un gradient extrêmement étendu. Les prises d'armes se font dans la communauté rurale, à l'échelle communautaire locale, et ça c'est important à souligner, et les cibles sont extrêmement variées, ça peut être des cibles extrêmement ponctuelles, extrêmement locales, des soldats en maraude, l'État monarchique est durablement inefficace à encadrer ses propres troupes, ça peut être des brigands, et dans certains cas, les mobilisations peuvent même se faire contre des bêtes féroces, suivez mon regard, de diverses sortes, mais non, bien sûr. Mais ce sont des choses dont je sais que tu es familier. Bon. Ça va du plus local, du plus ponctuel, jusqu'à des ennemis du royaume. Dans le cas breton, et la même chose pourrait se dire du cas normand, des levées sont faites, les levées de la commune sont faites, pour lutter contre des débarquements ou des menaces de débarquement des Espagnols, des Anglais, des Hollandais. Ces levées se font sur quelques paroisses, voire sur tout un pays, au sens du temps, un petit pays du temps. Et ce qui est fondamental, évidemment, ici, c'est que ces interventions se font avec l'aval des autorités, souvent même à l'initiative des autorités. Quand c'est très local, généralement, elles ne sont pas l'initiative, pour des raisons de temps, tout simplement. La réaction précède, si j'ose dire, l'autorisation, mais elles elles entérinent, si j'ose dire, ensuite, a posteriori, elles approuvent a posteriori ces interventions. Et on est vraiment ici dans une logique de service du roi, en tant que le roi est le promoteur de ce qu'on appelle au XVIe siècle le bien commun de la République dans le royaume de France. Les autorités ont d'ailleurs créé toute une série de cadres institutionnels pour faire fonctionner ces mobilisations. Je ne vais pas vous les présenter longuement, mais je vous en énumère quelques-uns. Et là, je suis déjà en train de quitter en partie la Bretagne. Il y a des secteurs qui ont des privilèges militaires d'autodéfense, qui sont officiellement reconnus. C'est vrai depuis le Boulonnais, là-bas tout au nord, jusqu'aux vallées pyrénéennes, tout au sud. Sur les côtes, on a officialisé des milices, qu'on appelle des milices garde-côtes. C'est vrai, entre autres, sur les côtes de Bretagne, mais pas seulement. Les populations, au moins les communautés, ont l'obligation de disposer d'armes qui doivent être utilisées en cas de besoin pour la défense. On repère un peu partout des capitaines de communautés, qu'on appelle en Bretagne des capitaines de paroisse, et qui sont reconnus comme tels par les autorités, et qui assurent un encadrement très largement nobiliaire. Donc, cette autodéfense villageoise, c'est ce que j'appelle la défense rurale, en précisant tout de suite que il n'y a pas pour moi de spécificité, si j'ose dire, de la campagne par rapport à la ville. Plus précisément, c'est pas une piste que je suis ici, hein, ça mériterait un autre exposé. C'est le rural pris ici autant au sens d'espace d'étude, hein, pas en opposition avec la ville, c'est pas un facteur explicatif, si vous voulez. J'étudie le comportement des sociétés rurales en lien avec une pratique qui est celle de la défense. Défense qui est quelque chose de normal, quelque chose de nécessaire, dans lequel les communes jouent un rôle indispensable de force de l'ordre et d'appoint pour des tâches militaires. Parfois, d'ailleurs, elles sont seules, hein, je dis d'appoint, mais parfois, elles sont seules à combattre dans certaines circonstances. Dans le cas du dossier des guerres de la Ligue, et j'y reviens d'un mot, il y a des tensions particulières qui sont liées au fait que, ce qui est normal en situation de guerre civile, les autorités sont divisées. Et les autorités vont se disputer, les communes. On voit en 1589, Henri III d'un côté, le gouverneur ligueur Mercœur de l'autre, lever la commune, à leur profit, hein, pour leur camp. Bon. Et évidemment, dénoncer les communes qui servent dans l'autre camp. Et ça nous donne un avantage considérable à nous, historiens, c'est que cette guerre civile, cette situation de guerre civile, avec des autorités partagées, permet la production de sources. Production plus nourrie de sources, en particulier des procédures contre les engagements dans l'autre camp. Ce qui donne une visibilité accrue à ces mobilisations qui sont très peu visibles quand les autorités sont toutes d'accord sur l'intervention des communes. Je vous donne juste un exemple qui est presque le premier sur lequel j'ai travaillé. Les campagnes de Vitré, les paroisses autour de Vitré, petite ville donc de Haute-Bretagne, se sont mobilisées en 1574 pour contribuer à reprendre la ville après une espèce de coup de force protestant dans la petite cité. Ça a pris 2 jours, ça s'est très bien passé, ils ont repris la ville, ils ont été félicités par les autorités unanimes et on n'a pas de source. Enfin, on sait que ça a eu lieu, mais on n'a rien. Quasiment. En 1589, les paroisses autour de Vitré ont refait la même chose dans le cadre d'un coup de force royaliste protestant dans la ville de Vitré. Ça a été très long. Les autorités étaient partagées. Ils étaient soutenus par le gouverneur Mercœur, mais ils étaient contre le camp des royaux. Et ça a donné lieu à une considérable production documentaire, en particulier une enquête des royaux pour mettre en accusation les actions qui étaient menées par les ligueurs et en particulier par ces communes. Et c'est à nouveau une enquête qui nous permet d'avoir des informations importante, voire exceptionnelle, sur ces mobilisations. Dans le même temps, de la part des autorités rivales, évidemment, ces divisions vont nourrir le discours, si j'ose dire, subversif, sur le peuple subversif, puisqu'évidemment, les royaux accusent les ligueurs de manipulation, et en particulier de jouer avec le feu, si j'ose dire, en laissant ces paysans se mobiliser en période de guerre civile, avec la menace, à leurs yeux, de réveiller le danger de la subversion, dont je reparlerai aussi tout à l'heure. Et on voit se produire, dans ce contexte de guerre civile, des assignations partisanes qui sont tout à fait significatives. Ces communes du pays de Vitré, qui très vraisemblablement, fin mars 1589, se sont mobilisées comme elles s'étaient mobilisées 15 ans plus tôt, au son du tocsin, avec leur capitaine de paroisse, pour aller faire la même chose, c'est-à-dire rétablir l'ordre au nom des autorités locales dans la petite ville de Vitré, se sont retrouvées à lutter dans un camp d'une guerre civile, assignées à ce camp dans le cours même du processus, et du fait même d'ailleurs que la reprise de Vitré n'a pas lieu, le siège va durer 5 mois, j'ajoute même que ce siège va échouer, la ville va être débloquée par les royaux, eh bien, ils vont se retrouver assignés au camp des ligueurs, ce qui n'était vraisemblablement pas du tout prévu au départ, au moment de leur mobilisation initiale. Et on a des phénomènes de récupération de cette défense rurale, dont je peux vous donner un joli exemple que j'ai trouvé dans les archives d'un des parlements bretons de l'époque, puisque avec la Ligue, on en a deux, un parlement ligueur à Nantes et puis un parlement royaliste à Rennes. C'est une requête du bourg de Saint-Nazaire. Alors, j'insiste, Saint-Nazaire, à l'époque, est un bourg. On est dans du rural quasiment profond encore. On est en 1589, les chantiers de l'Atlantique sont assez peu développés. Les habitants de Saint-Nazaire demandent à être autorisés, je les cite, à courir sus avec leurs armes et par assemblée, à son de tocsin, à grand nombre de voleurs, gens vagabonds et qui tiennent les champs sans aucun aveu, profitant, disent-ils, de la licence dissolue du temps, et ils veulent soit les appréhender, soit carrément les tailler en pièces s'ils résistent. Aucune allusion politique, il s'agit ici de demander l'autorisation de faire ce que fait la commune quand il y a une menace locale, c'est-à-dire se lever pour éliminer les menaces dues à des voleurs, gens vagabonds, etc. Réponse de l'autorité qui contrôle le secteur auprès de laquelle cette demande est faite. C'est le Parlement ligueur de Nantes. Il autorise les habitants à accompagner les capitaines du secteur, qui précise, dit-il, agissent sous l'autorité du gouverneur Monseigneur de Mercœur pour, et c'est magnifique, courir sus aux ennemis de la Sainte Union des catholiques. Les voleurs sont devenus les ennemis de la Sainte Union des catholiques. L'intégration partisane est faite depuis les autorités, depuis l'extérieur. Est-ce qu'elle est souhaitée par les populations ? Est-ce qu'elle est même assumée par les intéressés ? C'est bien difficile de vous répondre, parce que je n'ai pas d'autres sources sur ce dossier précis. Il n'empêche que ce qu'on voit, c'est que même sous cette forme biaisée, cet exemple prouve au moins qu'il s'agit d'un modèle d'intervention qui est reconnu, même si le Parlement, j'allais dire, reformule la demande. Il la considère comme légitime et il l'autorise effectivement. Donc sur la base de ce dossier breton initial, et vous voyez, très conjoncturel, eh bien, je pense qu'on peut étendre le cadre interprétatif de cet élément, de la société rurale que je qualifie de défense rurale, en constatant d'abord que appeler les populations ou accepter que les populations courent sus, attaquent les fauteurs de troubles à main armée, est d'abord une conséquence en milieu rural du manque de force de l'ordre au quotidien, y compris face aux soldats pillards. Et y compris lors des périodes de guerre, dans la Bretagne, la Bretagne côtière, qui est assez étendue, de la fin du XVIIe siècle, au temps de Louis XIV, il y a très peu de troupes. C'est une zone frontière face aux Anglais, et elle est presque sans troupes, en pleine guerre, et les milices gardes-côtes sont appelées, pas seules, mais sont appelées à jouer un rôle dans cette défense. Cet appel à la mobilisation des populations est une constante, en long terme, de la part des autorités. Alors, je ne vais pas multiplier les exemples, j'en prendrai un au début, à la fin de la période que j'étudie. Philippe IV le Bel, roi de France au début du XIVe siècle, précise bien que tous les habitants peuvent être requis pour combattre en cas de grave nécessité. Plaçons-nous au début du XIXe siècle, avec un autre roi de France, Louis XVIII, ordonnance du 7 mars 1815, dans un contexte un tout petit peu particulier que je vous rappelle, l'usurpateur vient de débarquer, là. Ordonnance du 7 mars 1815, les simples citoyens, nous dit le roi, doivent courir sus, c'est le mot du texte, à Napoléon et à ceux qui l'accompagnent dans son retour depuis l'île d'Elbe. Et d'ailleurs, à Paris, au cours du mois de mars 1815, va courir une rumeur selon laquelle les paysans de la région de Digne sont, d'une certaine façon, ont réussi, si j'ose dire, à traquer Napoléon et peut-être même seraient en train de le capturer. Bon, c'est une rumeur qui se révèle fausse, mais qui montre bien comment on envisage effectivement que les populations locales puissent entrer dans ce système de défense. Le même Napoléon, un an plus tôt, avait lancé des proclamations pour appeler les populations locales à résister à l'invasion, lors de la première invasion de 1814, je vous renvoie au décret impérial du 5 mars 1814, qui organise la levée en masse et qui précise le rôle militaire des civils, qui sont chargés de seconder les troupes en surveillant les routes et forêts et en harcelant l'adversaire et en pratiquant des opérations militaires. À l'intérieur de la période, juste un élément pour illustrer cette thématique non seulement de l'aval, mais de la volonté des autorités d'organiser cette défense, c'est une ordonnance du 25 janvier 1537, fait comme bien que j'évoque un événement du règne de François Ier. Dans cette ordonnance royale de janvier 1537, on autorise plus précisément les agents qui sont chargés du maintien de l'ordre dans les campagnes, ce qu'on appelle les prévôts des maréchaux, donc ils sont parmi les ancêtres de la gendarmerie, si vous voulez. Ils sont autorisés quand il faut exécuter les décrets de justice contre les vagabonds, contre les pillards, et très souvent exécuter des décrets de justice, ça veut dire tout simplement les arrêter, enfin les appréhender, hein, tout simplement. Je cite, « Ils peuvent convoquer et appeler nos vassaux nobles, ça c'est ce qu'on appelle le ban, hein, et autres gens plébés, autres gens de la plèbe, autres gens du peuple, laboureurs, roturiers et communautés, à tocsin ou cri public et autrement, en tel et si bon grand nombre que la force et autorité nous en demeurent. » Donc c'est prévu par les textes, hein, que cette mobilisation puisse se produire. Alors ça a de nombreuses conséquences. La première conséquence, c'est la légitimité de l'armement des populations. Alors en faisant attention à une distinction juridique fondamentale, la détention d'armes est généralement légitime. En revanche, le port d'armes, c'est-à-dire le fait de se balader avec une arme, pas d'avoir une arme chez soi, mais de se promener avec une arme, et puis en plus il y a différents types d'armes, est extrêmement réglementé, extrêmement restreint, même si on sait que ce n'est pas toujours respecté. Il faut bien distinguer les deux, détention et port. Il y a de ce fait aussi une légitimité de la participation au combat de ces communes. Et donc l'idée, vous savez, ce thème-là encore, on est encore d'ailleurs dans des luttes d'imposition idéologique, hein, l'idée sur laquelle les paysans sont des inermes, hein, vous savez, dans les trois fonctions héritées de trois orges du féodalisme, les paysans sont des non-armés par définition. Là, on est vraiment dans la lutte d'imposition idéologique, hein, pour représenter ces paysans comme ceux qui ne sont pas aptes ni légitimes à porter les armes. C'est une fiction pratique, y compris du point de vue des autorités, sauf à dire que les autorités ici peuvent jouer en disant « Ah ben non, les paysans ne sont pas armés, parce qu'ils ne sont armés que quand on leur demande, puisque le port d'armes est, en gros, pratiquement interdit, mais en revanche, la détention d'armes est autorisée. Elle est même non seulement autorisée, mais dans certains cas, obligatoire. » Vous voyez, on peut jouer ici sur port et détention pour dire « Ah oui, c'est des inermes au quotidien, si j'ose dire, hein, des non-armés au quotidien. » Il n'empêche. Cette mobilisation est communautaire par définition, hein, dans le cadre de la paroisse, et ou de la communauté villageoise, parce que là, ça dépend des structures selon les provinces du royaume. Alors, c'est une dimension fondamentale, mais il ne s'agit pas de réifier. Là. C'est pas parce qu'on est en communauté, si je veux dire, que tout ce qu'on fait est communautaire. C'est un espace de mobilisation, c'est un cadre de mobilisation. C'est pas forcément là non plus une catégorie explicative en soi. Et je vais essayer de montrer un petit peu pourquoi. Il n'empêche que, dans un premier temps, ce service en armes pour le bien commun permet l'accès des individus concernés, j'allais dire, à une forme de dignité sociale et d'appartenance à la société politique, alors à la fois individuelle et collective, mais quand même probablement, si j'ose dire, a priori surtout comme membre d'un corps, comme membre d'une communauté, la communauté villageoise. Ce qui contribue à une forme de politisation, hein, dans les communautés concernées. Les communautés villageoises sont donc appelées à participer avec une dimension autonome, si j'ose dire, aux opérations de défense, et c'est d'ailleurs, quand on voit les choses d'un peu près, cette dimension de défense, une des dimensions de structuration importante de la communauté à la fin du Moyen-Âge, avec en particulier les questions fiscales, mais aux côtés des questions fiscales, et d'ailleurs parfois articulées à elles. Attention cependant, si la mobilisation est une dignité, d'une certaine façon, c'est aussi un devoir, et dans certains cas une contrainte. Et dans certains cas, si j'ose dire, il n'y a pas forcément d'enthousiasme individuel ou d'enthousiasme collectif à se mobiliser. On est là sur la piste de tensions internes au sein des communautés, qui débouchent d'ailleurs sur, vous allez le voir malheureusement, au moins au stade où j'en suis, beaucoup plus de questions que de réponses. On est très mal renseigné sur ce qui se vit dans les communautés. Quand les mobilisations sont sélectives, quand quelques hommes seulement par communauté sont mobilisés, quelle qu'en soit la forme, je ne m'étends pas là-dessus, qui décide ? Qui est choisi? Qui part? Quand la mobilisation est générale, alors c'est facile de dire, on lève la commune, donc on lève tout le monde. Mais c'est qui tout le monde? Tous les chefs de feu? Tous les hommes? Est-ce qu'il y a des exclus? Les jeunes, les vieux, qui part? Avec quelles contraintes sociales? C'est une obligation absolue, il y a une certaine marge de manœuvre. On dit, on lit, et parfois on écrit, le tocsin sonne, tout le monde se mobilise. Bon, effectivement, le stimulus du tocsin est absolument fondamental pour réagir à une menace, ou disons, pour appeler à faire face à une menace. Mais est-ce qu'on y répond toujours effectivement? Il faut des médiations humaines, des médiations sociales. Pensez à l'exemple que je donnais tout à l'heure de ce prêtre qui fait sonner le tocsin et qu'on vient voir et qui dit que, etc., et qui appelle à. Donc il faut vraiment ici des sources particulières pour pouvoir cerner un petit peu ce contexte. L'adhésion des individus à l'échelle de la communauté, ou des groupes d'individus éventuellement à l'échelle de la communauté, n'est pas forcément évidente. On est là, pour reprendre une vieille articulation que les spécialistes de la Première Guerre mondiale connaissent bien, mais ils ne sont peut-être pas nombreux parmi vous, hein, entre consentement et contrainte, hein, donc l'école de la contrainte et l'école du consentement, le devoir accomplir, est-ce qu'on la consent à l'accomplir ou est-ce qu'on l'accomplit sous la forme de la contrainte? Pour celui qui travaille sur ces mobilisations rurales, dont on trouve énormément de traces, en revanche, il y a une frustration incontestable liée au fait que les sources qui en parlent sont elliptiques, sont ténues. On a beaucoup de problèmes pour pénétrer sur ce plan-là à l'intérieur des communautés rurales et de leur fonctionnement. On connaît souvent les fonctionnements ordinaires à travers l'évocation de leurs dérèglements, à travers les sources judiciaires. J'ai déjà évoqué ça à propos de plusieurs dossiers. Hein. On sait que malheureusement, si je veux dire, quand les conflits sont internes à une communauté, on a souvent tendance à l'intérieur de la communauté, à minimiser les conflits internes. Il faut souvent un tiers intervenant, si j'ose dire, pour pouvoir pénétrer un peu les réalités des pratiques perçues à travers les sources judiciaires. De façon assez significative, le seul document parfaitement explicite que j'ai trouvé jusqu'à maintenant qui décrive dans une paroisse la levée de la commune avec ses différentes étapes, il est le fruit d'une lettre de rémission qui a été produite par l'autorité royale en 1490, c'est dans une petite paroisse du Maine, dans le cadre de la guerre entre la Bretagne, et le duché de Bretagne et le royaume de France. Et il faut ce tiers, si j'ose dire, cette autorité royale pour pouvoir avoir ce regard sur la mobilisation intérieure. Autre massif documentaire sur lequel je me suis beaucoup appuyé, les sources narratives, pensez au chanoine Moreau que j'évoquais tout à l'heure, qui pratiquement jamais ne descendent à ce niveau, si j'ose dire, de l'intracommunautaire. Or, ces communautés rurales sont administrativement peu institutionnalisées et particulièrement dans le domaine de la défense. Les capitaines de paroisse, en gros, ne génèrent pas d'archives, contrairement aux municipalités, et dans les comptabilités municipales, on trouve peu de traces de ces mobilisations. Ce qui est révélateur, si j'ose dire, d'une certaine façon, de ce paradoxe, de cette difficulté d'une histoire sociale locale, j'espère que sur certains dossiers au moins, et je vise quelqu'un tout à fait précisément dans l'Assemblée, on pourra progresser là-dessus rapidement. Il y a un paradoxe, si vous voulez, sur la question des églises fortifiées. Les églises fortifiées rurales, en gros, il y en a partout. Quand vous étudiez la guerre de Cent Ans, vous allez de province en province, il y a des tas de travaux sur les églises fortifiées rurales. Et quand vous sortez du royaume de France, c'est pareil, je me souviens visiter en Transylvanie des églises, des villages d'églises fortifiées, il y en a partout. Les églises sont fortifiées, alors on a l'impression qu'elles se défendent d'elles-mêmes. Ou les villages sont fortifiés, on a l'impression qu'ils se défendent d'eux-mêmes. Et on est parfois plus qu'agacé du fait qu'on n'ait rien sur ceux qui défendaient ces fortifications. Mais dans certains cas, on sait bien aussi qu'on n'a rien parce qu'il n'y a pas de source, ou pratiquement pas de source, qui évoque la dimension humaine de l'entretien et de la défense de ces fortifications. Parfois, je pense aussi que les chercheurs se sont plus intéressés au monumental qu'au social, mais malheureusement pas tout le temps. Donc, un silence, si j'ose dire, qui est une limite. En revanche, si vous m'avez suivi jusque-là, il y a un autre silence qu'on comprend mieux. Vous savez, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il n'y avait pas de revendication de ces communautés quand elles se mobilisaient. Si j'ose dire, l'absence de mots d'ordre ou de revendication propre s'explique par le fait que les communautés qui se mobilisent, j'allais dire, pour défendre l'ordre public, pour assurer la police, si j'ose dire, au sens contemporain du terme, là, pas au sens du temps, c'est une réalité qui va sans dire. Comme pas mal de traits essentiels des comportements sociaux, il y a besoin de dire pourquoi on le fait. On fait ce qui est nécessaire pour la sécurité à un moment donné, sans produire à cette occasion-là un discours fondé sur des revendications qui pourraient être autres. J'ai une jolie formule que j'aime bien de Sandro Landi qui évoque, il n'évoque pas pour mon propos, qui parle de certaines formes d'opinion publique et qui parle sujet de, je cite, de secret et tacite consensus. J'aime bien cette formule de secret et tacite consensus. Je crois qu'ici, l'objectif n'a pas besoin d'être explicité par les communautés rurales sous les âmes, qui ne revendiquent rien en propre, si j'ose dire ici. Il ne s'agit que, évidemment, je mets des guillemets à ce que, il ne s'agit que de contribuer à assurer l'ordre, à rétablir l'ordre et la sécurité localement face à tel ou tel type d'agression. Alors, évidemment, ici, on rencontre une objection, c'est que on a des acteurs sociaux qui pourraient vouloir le désordre public, si j'ose dire. Alors, j'insiste bien sur le désordre public puisqu'ici, je ne me parle pas, comme vous l'avez compris, des relations d'ordre privé entre acteurs à l'intérieur d'une famille, etc. Bon. On fait le constat quand même, quand on travaille sur les communautés rurales, que ce comportement, vouloir le désordre public au sein des communautés ou au sein d'une communauté, c'est un comportement généralement minoritaire, voire marginal pour les habitants du lieu. Hein. Leur communauté exerce aussi ici son rôle de contrôle social. Alors bien sûr, il y a des gens qui veulent le désordre public dans une communauté ou qui l'assurent. Par exemple, effectivement, tous ceux qui passent, compagnie de soldats, bande de brigands ou autres. Mais très clairement, le comportement au sein d'une communauté, la volonté au sein d'une communauté de souhaiter voir le désordre public paraît quand même, malgré tout, pour en discuter, un comportement très minoritaire. Alors, bien évidemment, ce cadre de la défense rurale ne recouvre pas la totalité des mobilisations armées rurales. Je ne veux évidemment pas dire qu'il n'y a pas eu de révolte rurale. Voyez bien qu'il s'agit de faire apparaître synthétiser une nouvelle catégorie, mais elle ne tend pas à éliminer toutes les autres. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir si et comment on peut distinguer les mobilisations de défense rurale et les révoltes, si j'ose dire. Et alors, je travaille là-dessus, j'essaie de trouver des critères pertinents. On peut en trouver un certain nombre. Certains sont implicites par rapport à ce que j'ai dit, puis d'autres, je vais essayer de les rajouter. D'abord, évidemment, c'est le rapport aux autorités. Dans les révoltes, les révoltés sont porteurs de revendications propres auprès des autorités. Par exemple, le plus évident, les revendications antifiscales. Et dans le cas des révoltes, évidemment, ils ne sont pas soutenus par les autorités. Même s'ils prétendent au bien commun, même s'ils en appellent à la justice et au roi, dans certains cas, eh bien, ils n'ont pas cette validation par les autorités que les opérations de défense rurale obtiennent. Deuxième dimension de différence, deuxième type de différence, les modes de mobilisation sont, alors je vais être prudent, sont différents. Le rôle des femmes et des enfants, par exemple, dans la défense rurale, on ne les voit pas. Sauf un cas particulier dans les Pyrénées que j'arrive pas à résoudre, mais bon, il faut bien une exception, mais on ne les voit pas. Deuxième chose, le recours aux armes n'est pas le même. Si j'en crois certaines des choses que je lis sur les révoltes, le recours aux armes dans les révoltes est beaucoup plus limité, voire absent, en particulier dans les premières étapes, alors même qu'il y a plein d'armes dans les campagnes, comme on s'en aperçoit quand il s'agit de lever la commune, là, sous format officiel, si j'ose dire, ou là, quand la mobilisation est officielle, alors les armes sortent tout de suite. Elles sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus utilisées. Il semble y avoir par ailleurs une différence de nature des chefs entre défense rurale et révolte. C'est le constat que j'ai fait en travaillant sur les capitaines de paroisse pour une recherche récente. En cas de révolte, les capitaines de paroisse soit se tiennent en retrait, soit sont tenus à l'écart. Comme si, d'une certaine façon, les populations locales sous les armes faisaient bien la distinction entre les deux formes de mobilisation. Je cite juste un exemple. On est pendant la révolte des Bonnets Rouges en Bretagne, en Basse-Bretagne, en 1675. Une paroisse s'appelle Briec. La paroisse est mobilisée contre une menace fiscale supposée, fausse, mais peu importe, ils y croient. Le capitaine de paroisse est au bourg. Il n'est pas sollicité pour participer, pas sollicité évidemment pour prendre la tête de la mobilisation, et lui-même ne fait rien. Il ne tente ni de prendre la tête du mouvement, ni de s'y opposer. Et donc, il est comme à côté, si j'ose dire, de ce qui se passe socialement. Et ce qui est tout à fait intéressant, en revanche, c'est qu'au moment de la répression, alors là, les capitaines de paroisse réapparaissent, les autorités royales les mobilisent dans la phase de répression. Je cite, « On a aussi fait désarmer tous les paysans et on a ordonné de donner leurs armes à leurs capitaines de paroisse. » On est revenu au cadre officiel des mobilisations. Alors là, il faut surveiller l'usage des armes par les populations. Et donc, on retrouve la structure normale de la défense rurale, reconnue par les autorités. Et les capitaines de paroisse sont ici les agents locaux privilégiés, en l'occurrence ici, non pas pour les ramener immédiatement au combat, mais pour contrôler les armes qui sont dans la communauté et dont on sait qu'on aura besoin. Après la grande révolte du sud-ouest de 1548, un des problèmes des autorités, c'est qu'ils savent qu'ils vont avoir besoin des populations rurales sous les armes en cas d'agression, soit espagnole, soit anglaise. Et donc, il faut trouver une méthode pour que les armes soient sous contrôle, pour éviter qu'ils les prennent pour se révolter, mais en même temps qu'elles soient disponibles pour qu'ils puissent les prendre pour intervenir et protéger les côtes. Cette distinction, si elle fonctionne, c'est une hypothèse que je lance, je n'ai pas trouvé de contre-exemple pour l'instant, mais il y en a peut-être, c'est une distinction qui est le signe, à mon avis, d'une forme de politisation assez subtile de la part des populations, qui montre qu'elles ont conscience de faire deux choses différentes, selon qu'elles défendent l'ordre, selon qu'elles le contestent d'une certaine façon. C'est d'autant plus intéressant et d'autant plus compliqué pour moi, et ça m'interroge d'autant plus que je vous rappelle que moi je dis qu'elles contestent l'ordre, mais généralement, dans les mouvements de révolte, les populations se présentent comme agissant pour la justice, n'assument pas, si j'ose dire, la dimension contestataire de ce qu'elles font, en appellent au souverain et considèrent que le souverain va leur donner raison, puisque c'est les mauvais agents du souverain qui expliquent que la situation soit mauvaise, et non pas le souverain lui-même, qui est foncièrement bon et qui va rétablir le bien. Donc vous voyez, c'est vraiment assez intéressant. Ce qui veut dire qu'à partir de là, il faut, je crois, essayer de reprendre l'ensemble des dossiers de ce qu'on baptise, rappelez-vous ce que je disais de la Bretagne tout à l'heure, des révoltes, pour y faire la part, ou non, du modèle de la défense rurale en leur sein. J'évoquerai qu'un dossier qui n'est pas mince, c'est la Grande Peur de juillet 1789. Grande Peur qui est présentée souvent un peu rapidement, parce qu'elle est présentée uniquement comme une vaste révolte antiseigneuriale. Et en fait, quand on observe au départ la façon dont les gens et les populations se mobilisent, ils se mobilisent sous une forme qui est typiquement celle de la défense rurale contre des brigands qui sont annoncés. Hein. Parfois même, il y a des épisodes, je ne vais pas évoquer des choses, je parlerai demain à Lisieux, mais des choses normandes assez marrantes. Ce n'est pas du tout une levée antiseigneuriale. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'ils se mobilisent sous la direction des élites locales, et on va voir les ruraux porter secours aux villes voisines, on va voir les petites villes ou les moyennes villes sortir de la ville pour essayer d'aller défendre les villages dont on leur dit qu'ils sont attaqués par des brigands, par des soldats ennemis, etc. Évidemment, avec la dimension paradoxale, et c'est là où ça devient drôle, enfin drôle pour nous, mais pas pour eux, c'est que les mouvements de défense qui agitent campagnes et villes donnent l'impression, effectivement, qu'il y a des brigands partout. On voit des troupes qui se baladent un peu partout, on se dit, ben voilà, ils sont là, les brigands. Donc. Mais on est clairement ici dans une logique qui relève d'une manifestation de la défense rurale et pas du tout à ce stade d'une lutte, d'une levée antiseigneuriale. Alors, ça veut dire retravailler le dossier. Le dossier était très bien étudié, il y a déjà longtemps, par un historien qui s'appelle Georges Lefebvre, qui a fait faire des dépouillements absolument massifs concernant ce dossier. Il n'y a qu'un tout petit problème, si vous l'avez regardé, hein, le livre de Georges Lefebvre sur la Grande Peur, c'est qu'il n'y a pas de notes. Donc, il faut tout redépouiller pour tout revoir. Il y a quand même des historiens qui ont travaillé en partie sur le dossier. Ils peuvent l'avoir travaillé localement, ils peuvent l'avoir travaillé généralement. Je pense à un article de Timothy Tackett, qui a montré d'ailleurs que Lefebvre pensait qu'au début du mouvement, là, dans la phase que j'appelle de défense rurale, il y avait crainte dans le pays d'un complot aristocratique, ce qui pourrait donner une dimension politique, si je veux dire, à cette mobilisation. Et Tackett démontre bien que non, les sources qui évoquent ce complot aristocratique sont toutes ultérieures. Et quand on prend les mobilisations immédiates des populations dans la deuxième quinzaine de juillet, dans ce cadre-là, non, ils se mobilisent bien par pure crainte, si j'ose dire, de brigands, de troupes ennemies qui sont censées arriver d'un peu partout. On a donc à ce moment-là une résurrection absolument exceptionnelle des pratiques d'autodéfense pratiquement dans tout le royaume, pas dans tout, pour en discuter, mais dans une large partie du royaume, sur fond, bien sûr, de tensions extrêmement vives, et sur fond de manifestations de ce que je vais appeler par commodité des révoltes, par exemple des formes de révolte antifiscale, hein, qui existent bien en parallèle à ce que j'évoque. Un mot pour dire ici que cette réinterprétation est loin d'être simplement française. On peut l'amener à une échelle beaucoup plus large. Cette question des paysans sous les armes, dont l'action est à interroger, l'est à interroger aussi bien en France que dans d'autres pays. Un seul exemple, celui de la Vénétie, parce qu'on a des dossiers intéressants là-dessus. J'ai évoqué la Transylvanie tout à l'heure, mais ça pourrait être aussi bien là aussi. Hein. Vénétie, on est en 1509. Milice rurale qui se mobilise massivement face à l'invasion de la Vénétie par les Français et les impériaux, après la défaite des troupes de la Sérénissime à Agnadel, où d'ailleurs des milices paysannes étaient déjà présentes. Mobilisation de défense du pays, alors qui pose les problématiques, toujours dans ce cadre-là, de la problématique du patriotisme, la problématique de la défense pour la menace directe contre la sécurité, ce que moi j'évoque ici. Hein. Un exemple parmi beaucoup, hein, pour vous juste une petite allusion, pour vous montrer que cette thématique est très largement, peut être très largement élargie au-delà de la France. C'est dans ce contexte d'interprétation que j'introduis la question des relations de domination. Pour les dominants, la situation est compliquée parce que la défense rurale, elle est d'abord souhaitée, parce que ça sert l'ordre, et elle est crainte, vous l'avez compris, puisqu'il y a ou il y aurait un risque de subversion dès que le peuple est en armes. Et cette crainte, parfois même cette obsession de la subversion, est quelque chose qui est extrêmement fréquent dans le discours dominant. Il y a une jolie formule de Robert Desimon et Christian Jouhaud, qui a maintenant une trentaine d'années, qui dit ceci: « L'imaginaire des gens de bien accordait bien plus d'importance à la guerre sociale que celui des gens de néant. » Et vous retrouvez avec ce mot de guerre sociale le terme qu'utilisait Henri de Rouault et que j'évoquais au début de mon propos. Cette crainte, d'ailleurs, s'articule, se combine souvent avec un discours sur l'incapacité militaire ou la dévalorisation des capacités militaires de ces communautés rurales. Ils sont inefficaces. Ils ne savent pas se battre. Ils se battent mal. Ils combattent mal. Là encore, avec tout un enjeu de lutte d'imposition autour de leur pratique militaire. Or, ce qu'on constate, c'est que ces mobilisations de type défense rurale ne remettent pas en cause les cadres de la domination politique, la domination sociale, a fortiori de la domination économique, hein, les structures de la propriété. On voit bien que ce n'est pas là que se situe l'enjeu pour eux, c'est de rétablir leur public. Hein, leur objectif prioritaire, c'est ça, rétablir leur public, ce qui n'est pas forcément si surprenant que ça, dans la mesure où les premières victimes du désordre public sont les catégories populaires, alors rurales en l'occurrence ici, pour ceux dont je parle aujourd'hui, et que assurer la paix et assurer la sécurité, c'est de ce fait un enjeu social de premier ordre pour ces populations. Et au passage, on imagine aussi, mais je dis on imagine parce que là encore, les sources ne nous permettent pas toujours de nous en apercevoir, on imagine aussi que cette action menée sous les armes par la commune contribue à faire communauté, enfin se met au service du collectif et de la communauté elle-même, sous les réserves que j'ai dites plus haut. Pour autant, tout n'est évidemment pas toujours aussi simple. D'abord parce que l'action par les armes est une action violente et que même si elle se veut régulatrice, elle peut dans certains cas diffuser, voire aggraver l'ordre public, surtout quand elle n'aboutit pas rapidement, quand elle ne triomphe pas, si j'ose dire, de l'obstacle qui est représenté, soit qu'il soit local, soit qu'il soit plus général. Et je reviendrai ici sur mon cas vitréen tout à l'heure. Les communes du pays de Vitré participent au siège de la ville à partir de mars 1589. Le siège est levé en août 1589 par une armée royale qui vient débloquer la ville. Les communes sont toujours sous les armes, l'agitation dure, les villages sont barricadés, les routes sont bloquées, les communes, nous dit-on, font la grève des marchés. Et donc il va falloir que les royaux qui dominent de nouveau le secteur reprennent le contrôle de secteur. Ça va leur prendre apparemment 3-4 mois. Les barricades sont levées à coups de canon, hein, véritablement. Et on a même un gros combat ou une petite bataille qui va opposer les communes avec les troupes royales et qui va faire sans doute, les chiffres ne sont pas évidents à calculer à partir des sources qu'on a, mais enfin vraisemblablement quelques centaines de morts. Est-ce qu'on peut envisager, dans ce contexte-là, effectivement, d'aggravation et de troubles durables, que l'action de défense rurale, d'une certaine façon, s'infléchisse, voire mute, et mute éventuellement en engagement partisan? Est-ce que, dans le contexte de cet affrontement entre Ligueurs et Royaux, les communes du camp Ligueurs, que l'on a assignées au camp Ligueurs, qui combattent dans le camp Ligueurs et qui sont finalement réprimées par les Royaux, ne vont pas finir par s'identifier au camp auquel on les attribue? Alors, le dossier de Vitré que je viens d'évoquer, là encore, on aimerait bien tout un tas de sources d'histoire sociale pour compléter tout ça, mais disons qu'il n'y a pas d'indice documentaire sur ce plan-là. Et puis, on peut être dubitatif, mais c'était vraiment qu'une hypothèse et elle est même fragile, en tenant compte du fait que les troupes ligueuses ont levé le siège au mois d'août, ont abandonné les communes très simplement à la répression locale des royaux, ce qui ne plaide pas forcément, si j'ose dire, pour une adhésion durable à ce camp, mais je suis vraiment là dans l'ordre de l'hypothèse, non pas de la preuve. Est-ce que ça mute en engagement partisan? Est-ce que ça mute en subversion sociale? Alors là, le problème est très clairement posé pour la grande peur, car, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, mais il y a bien eu, effectivement, à la fin de juillet 1789, dans une partie du Royaume de France, des mobilisations antiseigneuriales, des châteaux brûlés, des terriers brûlés, des documents seigneurs brûlés, des seigneurs fortement molestés. De vraies violences antiseigneuriales. Et là, il ne s'agit pas de le nier, bien sûr, là encore. Mais quand on y regarde de près, à partir des travaux de Lefebvre et puis d'autres travaux, on s'aperçoit que la filiation est pas souvent probante, finalement. Les espaces sont différents. Les mobilisations antiseigneuriales sont beaucoup plus limitées que cette espèce d'énorme réseau de la grande peur. Les chronologies sont autonomes. Et donc, l'idée d'une filiation, d'une sorte de mutation de la grande peur à la violence antiseigneuriale fonctionne très mal. Je ne dis pas qu'elle ne fonctionne jamais, mais ne peut absolument pas être prise comme une généralité. Je fais même l'hypothèse que ces mutations sont globalement limitées quand le point de départ d'une mobilisation est de type défense rurale, il est rare, ou il me semble rare, ou je pense qu'il est rare, on va dire ça comme ça, qu'elle mute soit en mobilisation partisane, soit en subversion sociale. Cette défense rurale est donc, ou serait donc, l'expression de l'adhésion à une société dans laquelle il faut s'engager pour maintenir ou pour rétablir l'ordre, les armes à la main. En contrepartie de cet engagement, les gens ordinaires, si j'ose dire, les membres de ces communautés, exigent que tout le monde joue le jeu. Et ils dénoncent, voire dans certains cas, ils agressent les dominants, en particulier les nobles, qui ne jouent pas le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas jouer le jeu? Ça veut dire se tenir à l'écart de la défense rurale quand les circonstances l'imposent, ou dans certains cas, faire mal leur travail. Il y a, à Carhaix, enfin, juste après la bataille de Carhaix en 1590, nous raconte Moreau, toujours lui, un capitaine de paroisse qui est massacré par ses hommes. Mais il n'est pas massacré par ses hommes parce qu'il c'est un noble, parce qu'autrement, il aurait fallu que toutes les paroisses massacrent tous leurs capitaines de paroisse. Il est massacré parce qu'il a mal fait son travail, il les a amenés au combat en retard. Alors, on pourrait dire, ils arrivaient après la bataille était perdue. On pourrait dire, ouf, quel soulagement, merci chef de ne pas nous avoir amenés à temps. Visiblement, non, l'honneur de la communauté semble bien en jeu, et le capitaine va y laisser sa peau. Mais il laissait sa peau dans le cadre, précisément, d'un mauvais fonctionnement de la mobilisation. Prenons un autre événement, je me découvrirai encore plus avec celui-là, c'est la jacquerie de 1358, au nord-est de Paris. La jacquerie est cette opération d'agression contre, j'allais dire contre la noblesse, mais je vais dire plutôt contre les nobles, d'une certaine façon. La qualité de noble leur est déniée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait leur travail de noble. Ils n'ont pas été les protecteurs, ce qu'ils sont normalement. Ils n'ont pas joué leur rôle de protecteurs naturels des communautés. Ils ont fait défaillance, ils n'ont pas protégé le peuple, en particulier face aux chevauchées anglaises, et pas simplement à Poitiers, y compris les chevauchées anglaises en Île-de-France. Ils ont été incapables d'empêcher l'insécurité de se répandre. Et donc je pense qu'il ne faut pas prendre ces agressions contre des nobles, soit individuelles, soit collectives, pour des luttes de classe. Il faut les prendre comme une sanction d'une lâcheté, d'une trahison, personnelle souvent, collective parfois, qu'on fait l'exemple de la jacquerie. Il ne s'agit pas d'abattre un ennemi de classe, il ne s'agit pas d'abattre un dominant en tant que tel, mais vous imaginez bien quand même combien cela peut représenter là aussi une pression, voire une contrainte sur les dominants qui doivent aussi se conformer au modèle. Il leur faut, ils doivent apporter leur contribution active à la défense et à la protection. Quand ça se passe mal, c'est les exemples que j'ai dit. Le capitaine de Carhaix massacré, la jacquerie. Quand ça se passe bien, eh bien, j'ai trouvé une citation, je ne peux pas dire mieux que lui, donc je ne vais pas faire semblant de l'inventer, hein. Une citation dans le livre de Marc Russon qui s'appelle « Côte guerrière, mère, guerre et pouvoir au Moyen-Âge » et qui évoque la levée des communes sur les côtes atlantiques à la fin du Moyen-Âge et qui y voit, je le cite, et je ne peux pas dire mieux, « une occasion de raviver le contrat social de la noblesse locale avec les vilains, au sens de paysans, en renouvelant ainsi la légitimité des relations inégales par la défense commune du bien public. » J'aurais peut-être dit de la domination plutôt que des relations inégales, mais c'est exactement la même chose. Renouveler ainsi la légitimité des relations inégales par la défense commune du bien public. Ce mode de régulation, de la domination, inclut même une sorte de dimension de négociation. Je ne suis pas un fanatique de ce mot, mais là je suis obligé de l'utiliser. En tant que combattants, du haut de leur dignité, les paysans vont exprimer leur avis. Voire ils vont prendre des initiatives sur le plan militaire, ils sont d'une certaine façon associés à la délibération. Je prendrai juste un exemple, Breton là encore, je joue sur mon terrain, hein, qui nous vient d'un événement dont je n'ai pas encore parlé, Concarneau. Concarneau est pris par une bande de huguenots, mais ils sont de poignée, ils ont quelques dizaines, en 1577, et immédiatement, évidemment, on sonne le tocsin, et le populaire, la commune, et le banc, la noblesse, s'assemblent pour reprendre la ville de Concarneau. Et le populaire, nous dit la source dont je parle, veut un assaut rapide. Les gentilshommes qui l'encadrent sont obligés de laisser faire, je cite, « pour contenter les 10 paysans ». Alors évidemment, ça rate. Et une fois que cette tactique paysanne malvenue a échoué, eh bien les nobles vont mettre en place une procédure d'attaque efficace. Bon, vous voyez bien que la source est issue du monde du dominant. Son but, c'est de nous montrer que les paysans sous les armes, ils font spontanément les mauvais choix. Tactiquement, ils ne savent pas faire, donc ils font les mauvais choix. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les nobles n'ont pas de leur autorité nobiliaire, soit sociale, soit militaire, pu empêcher ce choix. Ils sont obligés de laisser les paysans faire ce qu'ils avaient l'intention de faire, dans une sorte de logique selon laquelle leur participation à la décision ne peut pas être récusée au nom d'un, j'allais dire, d'un principe d'obéissance militaire qui serait hiérarchique. C'est rare que généralement ce soit dans les tranchées, si vous voulez, les soldats qui disaient aux officiers, bon allez, on y va, hein, parce que là, il faut qu'on monte. Hein. Donc ici, on voit effectivement qu'il y a une coparticipation à discuter, à creuser, si j'ose dire, de cette population mobilisée. Et cette association, ou mais cette association, si vous voulez, quelle qu'en soit la forme, ne fait évidemment pas disparaître la domination en tant que telle, et cette domination est incapable de tenir durablement par la seule violence envers les dominés, vous le savez bien, et elle est d'autant plus incapable de tenir par la violence envers les dominés qu'il faut armer les dominés pour maintenir l'ordre. Il faut leur donner des armes, si j'ose dire, puisqu'on n'a pas les moyens en dehors d'eux de faire fonctionner la sécurité locale. C'est donc qu'il y a, et je passerai vite là-dessus parce que c'est des choses quand même, je pense, bien connues, hein, une forme de consentement à la domination, et ce consentement est à la fois indispensable et décisif. Je m'abriterai derrière la formule de l'anthropologue Maurice Godelier, qui dans Matériel et idéal écrit ceci. Le consentement est la part du pouvoir que les dominés ajoutent à celle que les dominants exercent directement sur eux. Mais ce consentement n'est pas accordé par simple aveuglement, par pure aliénation, même si la question de la dimension d'aliénation est sans doute à prendre en compte. Le système social, il est bien conçu pour rendre des services objectifs aux dominés, et en particulier un service objectif fondamental, qui est de leur garantir un ordre qui leur assure paix et sécurité, ce qui n'est quand même pas rien. Et dans cette perspective, les communes, quand elles prennent les armes, savent ce qu'elles veulent. Et quand elles donnent l'impression de choisir un parti dans les guerres civiles, je me demande, ou je pense même, dans le cas breton que j'ai étudié, qu'elles ont comme objectif prioritaire le service de l'ordre local, si j'ose dire. Pourquoi en Bretagne, dans certains cas, les paysans s'attaquent aux ligueurs, dans certains cas s'attaquent aux royaux, selon le hasard, ce qui semblerait au premier abord le hasard des localisations? Eh bien, je pense que c'est l'agresseur qui explique la réaction des paysans. Quand l'agresseur est ligueur, eh bien, là où il est royal, la défense rurale va paraître ligueuse, et là où il est ligueur, si je veux dire, la défense rurale va paraître royale, suivant les catégories qui sont les catégories d'une grille extérieure. Et les communautés mobilisées localement, elles sont mobilisées d'abord et avant tout contre un agresseur local, et pas contre des royaux ou les royaux ou contre les ligueurs. Là encore, on a une forme de politisation qui, en dernière analyse, va renvoyer, si j'ose dire, à l'enracinement dans une communauté locale dont la défense constitue une priorité. Deux remarques sur ce poids du local. Quand les communautés de frontières sont sous les armes, ils se mobilisent pour faire face à une agression qui vient de l'extérieur. Ça ne veut pas dire forcément que les ruraux mobilisés vivent leur mobilisation comme une intervention pour la défense du royaume, depuis ses frontières. Ça peut parfaitement être conçu, même aux frontières, dans une perspective locale. Et en 1814 encore, et là je prends un exemple tardif à dessein, et je m'appuie derrière les travaux de l'historien Jacques Entray, les historiens observent que les mobilisations locales, quand il y en a, c'est loin d'en avoir partout, hein, pour arrêter les envahisseurs, eh bien ces mobilisations locales, elles se vivent dans une logique de défense de la localité. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les textes même des autorités, préfets, gouverneurs militaires dans les différents départements, elles-mêmes insistent, hein, sur cet aspect de défense du petit pays, de la communauté, autant et plus que sur celui de la nation patrie. Et c'est justement parce que cet ordre local importe de façon objective, si j'ose dire, aux dominés, qui sont prêts à prendre les armes pour le défendre, ce qui veut dire qu'un certain nombre, alors pas toutes, on est bien d'accord, mais un certain nombre de ce qu'on appelle les révoltes, qui ont été définies comme telles, soit par les contemporains, soit par l'historiographie, sont, moi, ce que j'appellerais des mobilisations, vous excuserez le mauvais jeu de mots, de services d'ordre. Les services d'ordre, au double sens du terme, les dominés servent l'ordre social, qui les sert, en tant qu'ordre public. Alors, si je faisais mon petit Bourdieu, j'évoquerais peut-être ici un habitus de l'ordre, peut-être. Hein, ou disons que je vais me contenter du secret et tacite consensus de Sandro Landi que je mentionnais tout à l'heure, en faisant autre chose en conclusion, prétextant une conclusion pour dire autre chose, en soulignant un premier aspect qui ne vous aura sans doute pas échappé, c'est que je ne vous ai pas, en raison de l'orientation que j'ai voulu donner à ce papier, présenté d'évolution chronologique. L'histoire est un peu la science de la compréhension du changement, donc c'est une dimension qui n'est pas inutile, hein, pour le propos. J'en ai pas parlé parce que je ne peux pas parler de tout, mais disons que deux, trois remarques pour finir. Sur le rôle décisif, en particulier de l'État, et là on va retrouver la question géographique, dans l'évolution du rapport spatial à la menace. Vous avez vu que j'ai insisté lourdement sur la dimension localisée du rapport spatial à la menace. Cette perception très localisée, eh bien, j'allais dire, alors, je taille à coup de serpe l'État. On va voir ce que ça veut dire. Bon. L'État va s'employer à l'élargir pour pouvoir mobiliser autrement. Et en parallèle, il assure progressivement un désarmement des populations, au sens, si j'ose dire, d'un effacement du recours collectif local aux armes, tel que je l'évoquais dans mon propos. Et ce désarmement des populations, il est rendu possible par la réduction des menaces. La France du XIXe siècle n'est plus parcourue de soldats pillards. Il est rendu possible par le renforcement de forces de l'ordre spécifiques, et en particulier dans le monde rural, je pense à la gendarmerie, hein, et à son rôle dans les campagnes à partir du XIXe siècle, face au risque d'agression, avec, vous voyez bien, je fais un petit peu l'impasse, je l'évoque quand même pour me tendre quelques bâtons, la phase intermédiaire de la garde nationale, entre la Révolution et le milieu du XIXe siècle. Dans le même temps, grâce à cela, si j'ose dire, l'État finit par s'assurer de la disponibilité des ruraux, qui sont la grande majorité des Français à l'époque, et même de l'ensemble des Français, en cas d'appel à une mobilisation qui va devenir une mobilisation nationale. Et, si j'ose dire d'un mot pour terminer, l'apothéose du succès de ce désencastrement spatial, c'est le Tocsin d'août 1914. On est toujours au Tocsin, hein. D'ailleurs, il y aura encore le Tocsin en 39, mais on est toujours au Tocsin. Ce Tocsin d'août 1914, où, dans les campagnes, et j'ajoute en débordant de mon sujet, à la surprise d'une partie des autorités, aussi en ville, tout le monde va répondre, 99% pratiquement, hein, des mobilisés vont répondre, et vont répondre à un appel qui n'est plus un appel à la défense locale, mais bien un appel à la défense nationale. Voilà, donc un travail qui est en cours, une recherche en cours, et qui est demandeuse de questions, d'interrogations et de contradictions, et je vous remercie de votre attention.